Le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et si l'on sous-estimait de moitié l'empreinte carbone de la France ? Quand le gouvernement parle de 450 millions de tonnes de CO2 produits dans le pays, il omet d'évoquer les émissions importées. Le Haut Conseil pour le climat alerte ce matin.
Fin du premier acte dans la tentative de Veolia pour fusionner avec son rival Suez, le principal actionnaire Engie, va bien lui vendre ses parts. L'opération reste délicate, vous comprendrez pourquoi.
Dans ce journal aussi, vous entendrez des salariés au chômage partiel, un quotidien de plus en plus difficile à vivre et angoissant. À partir d'aujourd'hui, les bars sont fermés à Paris.
Donald Trump est sorti de l'hôpital. Un pari risqué pour le candidat à la présidentielle testé positif au Covid-19.
Et pendant ce temps, la Chine n'annonce plus que quelques cas de coronavirus chaque jour. Nous appellerons notre correspondante qui nous racontera la quatorzaine drastique mise en place par Pékin. Dans un quart d'heure, le billet politique. Frédéric Saïs se demandera si l'on peut aller bien dans un pays qui va mal. C'est la face cachée de notre bilan carbone. La moitié de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'étranger via nos achats de téléphones ou d'ordinateurs par exemple. Sauf que souvent, l'État ne considère que les émissions produites en France, 445 millions de tonnes de CO2, qu'il faudrait en fait plus que doubler. Le Haut Conseil pour le climat publie ce matin un rapport en ce sens et cela ne va pas en s'arrangeant, Véronique Rebérotte.
Si l'empreinte carbone de la France peine à diminuer, c'est bien parce que nos émissions importées augmentent de façon continue depuis 1995. La production des biens de consommation que nous importons génère elle aussi des émissions de gaz à effet de serre. Et comme nous importons une très large part de ce que nous consommons, notre empreinte carbone s'en trouve alourdie. Corinne Le Quéret, la présidente du Haut Conseil pour le climat.
Environ la moitié des émissions des citoyens français proviennent en fait de l'extérieur de la France et du coup, c'est la responsabilité de la France de s'en occuper. Il s'agit par exemple des émissions de l'équipement électrique et électronique, des émissions associées aux travaux de construction, par exemple si on construit des usines à l'étranger pour produire des produits consommés en France. Les produits des industries agroalimentaires étrangères encore pour consommation en France ou le raffinage du pétrole.
Si la France veut tenir ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, pas d'autre choix que de réduire drastiquement ses émissions importées d'au moins 65% pour respecter l'accord de Paris et la neutralité carbone en 2050. Le Haut Conseil pour le climat propose notamment que les Français puissent connaître l'empreinte carbone d'un produit importé pour leur permettre de mieux consommer bas carbone.
Là aussi, il s'agissait de respecter un objectif environnemental entré en vigueur il y a 2 ans tout juste, l'interdiction des néonicotinoïdes en France. Finalement, une dérogation est en passe d'être acceptée. Hier à l'Assemblée nationale, les députés se sont dit pour le retour de ces néonicotinoïdes pour les producteurs de betteraves, vote solennel prévu cet après-midi. Le projet est contesté par l'opposition de gauche, certains députés de la majorité et des associations environnementales. Les néonicotinoïdes, je vous le rappelle, sont des insecticides qui menacent les abeilles. Sur la route d'un géant du traitement des déchets et de l'eau en France, Suez sera bientôt racheté par Veolia, en partie en tout cas, car le conseil d'administration d'Engie a accepté hier la proposition de Veolia de lui racheter les 29,9% des parts qu'il détient dans Suez. Montant de la transaction, pas loin de 3,5 milliards d'euros. Pour obtenir le reste de Suez, Veolia doit lancer maintenant une OPA, une nouvelle opération à risque, Anne-Laure Jumet.
Suez voit en effet toujours cette opération comme hostile, mais le groupe a-t-il aujourd'hui le choix de la contrer? L'alternative qui aurait pu être portée par le fonds Ardian n'a pu être montée à temps. Le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, avait d'ailleurs déjà fait savoir qu'il ne pouvait attendre une hypothétique offre, alors que celle de Veolia, revue et corrigée, répondait à ses attentes. À présent, le schéma qui est sur la table, poussé par les pouvoirs publics, c'est de faire naître un nouvel acteur de l'eau en France, de taille à rivaliser avec Veolia. Car en cas de succès de son OPA, le groupe d'Antoine Frérot s'est déjà engagé à céder l'activité eau de Suez en France au fonds Meridiam. Mais pour l'État, ce nouveau Suez n'est pas assez dimensionné. D'où des discussions tout le week-end pour demander à Veolia des cessions supplémentaires, notamment à l'international, afin de faire grossir son nouveau rival. À ce jour, Bercy n'a donc pas réussi dans sa tentative de médiation. Mais pour Jean-Pierre Clamadieu, on a aujourd'hui les bases de ce qui pourrait constituer un accord. Pas sûr que la direction et surtout les syndicats de Suez en soient encore convaincus.
Veolia souhaite d'ailleurs reprendre les discussions aujourd'hui, mais Suez parle ce matin d'une reprise hostile dans des conditions, je cite, inédites et irrégulières. Les bars ont fermé hier soir à Paris et dans sa proche banlieue. Et leurs rideaux vont rester tirés pendant au moins 2 semaines, le temps de freiner l'épidémie de SARS-CoV-2. Voilà ce que disent les autorités. Les restaurants, eux, peuvent rester ouverts avec un protocole strict que nous vous détaillons hier. Les congrès, par ailleurs, sont interdits. Piscines, salles de sport, salles de mariage fermées. Même protocole en ce moment à Aix et à Marseille. Ces mesures induisent donc toujours du chômage partiel car de nombreuses entreprises citées précédemment tournent au ralenti. Ce chômage est pris en charge à 100% jusqu'à la fin de l'année par l'État. Mais comment vit-on avec le chômage partiel? La situation est de plus en plus compliquée pour les salariés, Annabelle Grelier.
Surtout, ne pas penser à l'avenir.
Moi, je pensais au pire, en fait. Donc, je m'accroche vraiment à mon quotidien.
Nathalie, hôtesse dans l'Eurostar, n'est pas remontée dans un train depuis le confinement. L'attente du retour à la normale du trafic devient angoissante.
Plus ça dure et plus on a peur. On a peur parce que du jour au lendemain, on peut aussi perdre notre travail. Le gouvernement peut décider du jour au lendemain d'arrêter de nous indemniser.
Un gouvernement qui avait annoncé une nouvelle dégression de la prise en charge du chômage partiel pour le 1er octobre et qui a finalement repoussé l'échéance de quelques semaines. Une rallonge qui n'empêche pas la déprime.
Plus le temps passe, je me dis, mais je sers à quoi? Je sers à rien, quoi.
Christophe, maître d'hôtel au Procope, la grande brasserie parisienne, a travaillé à peine plus d'une semaine après le déconfinement. L'inactivité lui pèse.
Quand t'as l'habitude de faire entre 20 et 25 km par jour, toujours courir, même être avec les collègues, avoir une interaction avec tes collègues, et tu te retrouves là, entre quatre murs, tu bouges plus, puis le fait de tourner en rond, de pas savoir, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis, surtout la pérennité des restaurants.
Leur entreprise survivra-t-elle à la crise? Tous se posent la même question. Nathalie réfléchit à changer de métier. Elle vient de suivre une formation de décoratrice d'intérieur.
Mais après, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait 18 ans de travail à bord d'un Eurostar? Comment on fait pour se reprojeter dans un nouveau métier? Donc c'est compliqué. Donc je me vois pas en un mois de formation en ligne devenir du jour au lendemain une grande décoratrice intérieure.
Changer de métier, Christophe en doute aussi.
Changer de métier, j'ai 50 ans l'année prochaine. Changer de métier sur une fin de carrière, c'est compliqué. Et honnêtement, moi je ne sais faire que ça. Moi j'ai fait 4 ans d'école hôtelière, c'est un métier qui me plaît. Faire une formation, oui, pourquoi pas, mais faire quoi?
Avec une perte en moyenne de 20% de leurs revenus, ce sont près de 2 millions de salariés qui sont encore au chômage partiel de droit commun, maintenu jusqu'à la fin de l'année.
Annabelle Grelier pour France Culture, alors que l'on attend ce soir les prévisions de l'INSEE qui table sur un recul du PIB de 9% cette année.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Donald Trump a quitté l'hôpital cette nuit.
Oui, pour regagner la Maison Blanche, 4 jours après avoir été testé positif au SARS-CoV-2. En arrivant dans sa résidence, le président américain a retiré son masque et lever les pouces en signe de victoire. N'ayez pas peur du coronavirus, a-t-il lancé ensuite sur Twitter, alors que le pays vient de franchir la barre des 210 000 morts. C'est plutôt au hasard de Grégory Phillips.
Le président n'est pas encore sorti d'affaire, mais nous l'avons autorisé à quitter l'hôpital. Le docteur Sean Conley, médecin personnel de Donald Trump, résume bien le pari risqué que l'actuel locataire de la Maison Blanche est en train de faire. Pas encore guéri, mais déjà la volonté de retrouver le terrain le plus vite possible. Si Donald Trump reste en bonne forme et ne fait pas de rechute, comme c'est parfois le cas chez les malades du Covid-19, alors son pari sera gagné. En étant resté que 3 jours à l'hôpital, il aura montré à ses supporters et à l'Amérique qu'il est un dirigeant fort, un dur à cuire, disait hier ses soutiens conservateurs. Si au contraire, Trump devait voir son état se dégrader dans les prochains jours, alors il prend le risque de devoir retourner à l'hôpital. Ce serait désastreux en termes d'image. Hier matin, plusieurs de ses conseillers soufflaient au président de ne pas prendre le risque d'un retour prématuré à la Maison-Blanche. En attendant, Donald Trump a saturé hier soir l'espace médiatique aux États-Unis. Sa sortie d'hôpital a été diffusée en direct sur toutes les grandes chaînes de télévision, éclipsant totalement le déplacement en Floride de son adversaire Joe Biden. Trump, encore malade et possiblement contagieux, veut vite retrouver le chemin de la campagne électorale. L'un de ses porte-parole promet qu'il sera le 15 octobre à Miami pour le second débat face à son rival démocrate.
C'est-à-dire dans 9 jours, très exactement. C'était Grégory Phillips depuis Washington. À l'autre bout de la planète, le quotidien est plutôt à l'hyper-précaution après un hiver mortel. Nous allons ce matin en Chine, où les autorités ont fait état cette nuit de 12 cas de Covid-19 en 24 heures. Des cas venus de l'étranger à chaque fois, selon la Commission nationale de la santé. Elle veut donc lutter contre ces cas importés. Dominique André, bonjour.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Pour rejoindre Pékin ces dernières semaines et pour reprendre votre poste de correspondante de Radio France, Dominique, vous avez dû vous soumettre à une quarantaine drastique.
Oui, c'est une quarantaine de 14 jours stricte et obligatoire pour toute personne qui pénètre en fait sur le territoire chinois, que ce soit les citoyens chinois qui rentrent chez eux ou bien les étrangers. Alors dès qu'on sort de l'avion, on est soumis à 3 tests de dépistage dans le nez, la gorge et une prise de sang, et puis à un questionnaire. On m'a demandé si j'avais côtoyé des personnes malades du Covid avant de partir, si j'avais été dans des restaurants ou bien dans des lieux publics. Et puis après avoir récupéré les bagages qui avaient été désinfectés, on a tous pris un bus spécial, protégé, pour être conduit dans un hôtel où on a été isolé. Alors j'ai été dans une chambre pendant 14 jours, 24 heures sur 24. Il était interdit d'en sortir. J'ouvrais la porte seulement pour récupérer les plateaux repas qui avaient été déposés par l'équipe sanitaire. Et puis je devais envoyer ma température 2 fois par jour à l'équipe médicale. Heureusement, la fenêtre de la chambre pouvait être entrouverte de quelques centimètres. C'est une expérience très spéciale. Il vaut mieux s'y préparer, mais c'est vraiment la condition aujourd'hui pour rentrer en Chine, qui a mis en place des moyens énormes pour éviter une deuxième vague, en fait.
Une peur de l'étranger, on l'a bien compris. Alors Dominique, je le disais, la Chine ne parle officiellement que de 12 cas de contamination quotidiennement, rarement plus. Peut-on estimer que la pandémie y est terminée ?
Alors les autorités chinoises ont tout de même dit il y a quelques jours qu'elles étaient sous pression avec les cas importés, 12 hier, avant-hier il y en a eu 20, et toujours vraiment des cas venant de l'étranger. Il y a un gros travail de prévention qui est fait aussi en ce moment dans les provinces, des équipes ont déjà été envoyées il y a plusieurs semaines. Dans la capitale, c'est un peu plus tranquille, Pékin est très protégé et on comprend pourquoi. Officiellement, il n'y a pas eu de nouveaux cas à Pékin depuis 2 mois, les restaurants sont même pleins, mais on sent tout de même que les gens sont très vigilants.
Merci beaucoup Dominique André, en direct depuis Pékin ce matin pour France Culture. Axel Kahn, vous êtes médecin président de la Ligue contre le cancer, invité des matins de France Culture. La Chine prend-elle ou a-t-elle pris les bonnes décisions ?
Elle a pris les décisions qu'elle pouvait prendre, n'étant pas une vraie démocratie, c'est-à-dire pouvant vraiment imposer des mesures extrêmement drastiques et difficiles à supporter. Mais sur le plan purement virologique, évidemment, sont les bonnes décisions. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Le virus, il n'a pas de petites ailes qui lui permettent d'aller tout seul. Le virus, il se transmet de personne en personne. Donc, dès que l'on isole totalement les personnes, on les empêche de se rencontrer. On met pendant 14 jours, maintenant 7 jours, mais 14 jours, une personne totalement à l'isolement. En effet, il n'y a aucun risque qu'elle puisse contaminer quelqu'un d'autre. Et la Chine peut se le permettre et peut l'imposer. C'est redoutablement efficace.
Merci Axel Kahn. On vous retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite des Matins de France Culture aux côtés de Christine Ockrent, notamment pour parler de ces décisions nationales en Chine. La saison des Nobel s'est ouverte hier avec le prix Nobel de médecine. 3 virologues ont été récompensés, un Britannique et 2 Américains. Leurs travaux ont en fait permis de découvrir le virus de l'hépatite C. Ce prix Nobel changera-t-il quelque chose pour eux, pour leur travail et pour leur quotidien ? Cécilia Arbona s'est posé cette question pour France Culture en retrouvant le Nobel 2011, le biologiste français d'origine luxembourgeoise Jules Hoffmann. Il avait été primé pour ses recherches sur l'immunité innée des drosophiles, c'est-à-dire des insectes. Et il se souvient, Cécilia Arbona.
L'heure de la reconnaissance internationale a sonné sur le tard pour Jules Hoffmann, à 70 ans.
Vous savez, le prix Nobel, c'est comme la radioactivité. On dit souvent, c'est quelque chose qu'il faut ne pas surestimer et ne pas sous-estimer. Ça change l'ambiance autour de vous, la façon dont on vous perçoit. Vous êtes plus crédible aussi vis-à-vis des hommes politiques. Vous avez plus de chances d'être écouté, d'être soutenu. Moi, j'ai commencé à travailler en zoologie, j'ai commencé à travailler sur les insectes, et très longtemps, personne ne prenait ça très au sérieux.
C'est son père, professeur de sciences naturelles et entomologiste, qui lui avait transmis la passion des petites bêtes volantes.
Mais oui, effectivement, je faisais beaucoup ce qu'on appelle de la faunistique. Aujourd'hui, on parle de biodiversité. Et je l'ai accompagné sur le terrain.
Invité à participer à des colloques internationaux, Jules Hoffmann s'amuse des coïncidences de la vie. Il y a 2 semaines, il a donné une conférence en Italie sur le Covid-19.
Alors que je n'ai jamais travaillé sur le Covid, mais finalement on s'est rendu compte que dans la réponse immédiate au Covid, il y a l'immunité innée qui intervient. Ce que nous avons trouvé chez les insectes vaut aussi chez l'homme. Au début, peu de gens croyaient que c'était intéressant.
avec curiosité et humilité, le prix Nobel de médecine 2011 n'en finit pas de s'interroger sur le monde dans son bureau de l'Institut des études avancées de Strasbourg.
Et à qui le tour aujourd'hui pour cette édition 2020, secret du cosmos ou physique quantique de l'infiniment petit, le Nobel de physique sera attribué en fin de matinée tout à l'heure. Un temps pluvieux s'installe ce matin sur toute la France métropolitaine avant l'arrivée d'éclaircies par l'ouest à la mi-journée. Ce matin, il fait 11 degrés à Besançon, 12 à Vienne, 13 à Paris, 14 à Nantes et 20 degrés à Aix-en-Provence, Guillaume.
Merci beaucoup, Clara Lecoq-Réal.